France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
La glace des pôles terrestres contient la mémoire des climats du passé. Pour comprendre cela, il a fallu attendre la deuxième moitié du XXe siècle et que des glaciologues un peu aventureux aillent forer dans les glaces polaires à la recherche d'indices des variations climatiques. Qu'est-ce qui, dans ces carottes de glace, nous éclaire précisément sur ces changements climatiques du passé et celui qui s'intensifie depuis la révolution industrielle? Jusqu'à quand peut-on remonter dans le temps du climat terrestre grâce aux échantillons recueillis avec ces forages? Science Chrono consulte aujourd'hui ces archives précieuses qui, bien que gelées, sont loin d'être muettes. Et pour parler de tout ça, nous sommes en ligne aujourd'hui avec Amaëlle Landais. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes glaciologue, paléoclimatologue, directrice de recherche CNRS au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous raconter comment le prélèvement des carottes de glace nous éclaire depuis le XXe siècle sur l'évolution du climat terrestre et notamment sur l'accélération du réchauffement climatique dû aux activités humaines. Avant de nous plonger dans cette histoire de la glaciologie, de la climatologie et de la paléoclimatologie, je vous donne le programme de la deuxième partie de l'émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, nous irons au Maroc sur le site de Sijil Massa, un pôle urbain aux portes du Sahara qui a été prospère durant tout le Moyen-Âge, notamment en raison de ses activités commerciales. On se demandera quelle archéologie faire sur ce site, essentiellement connu via des textes. Mais avant d'aller dans le chaud du Sahara, il nous faut revenir au froid des pôles et à ces carottes de glace qui constituent la mémoire du climat terrestre. Alors que se tient en ce moment la COP30 au Brésil, on s'est dit qu'il pourrait être utile de rappeler comment ces carottes de glace sont devenues un outil indispensable à la compréhension de l'évolution du climat terrestre sur le temps long. Amaëlle Landais, on va se concentrer bien sûr sur la deuxième moitié du XXe siècle aujourd'hui, mais avant cela, on peut peut-être donner quelques grands repères historiques. Quelles sont les connaissances finalement essentielles en climat établie à partir de la fin du 19e siècle, qui ont permis aux glaciologues d'aller chercher dans la glace les traces du climat, des climats du passé.
Oui, merci. Alors, effectivement, au 19e siècle, on savait déjà que le climat avait varié dans le passé. On savait qu'il y avait eu des périodes plus froides que l'actuelle, qu'on appelle des périodes glaciaires. On savait qu'il y avait des grosses calottes de glace à ce moment sur les régions continentales de l'hémisphère nord. Et puis, il y avait aussi cette intuition qui avait été proposée par plusieurs, dont Fourier, en fait, au début du 19e siècle. Il y avait cette intuition, on avait compris en fait l'effet de serre. Donc l'effet de serre, peut-être je peux réexpliquer rapidement, parce que c'est important pour la suite. Donc l'effet de serre, c'est le fait que donc on a le soleil qui nous envoie ses rayons, qui réchauffe la surface de la Terre, et puis la Terre va réémettre sous forme de chaleur, et cette chaleur qui est rémise par la surface de la Terre va être ensuite absorbée et conservée en fait par certains gaz qui constituent notre atmosphère, et notamment le dioxyde de carbone dont on parle beaucoup. Et ce qui s'est passé plus tard, c'est que à la fin du 19e siècle, donc un chercheur suédois, Svante Arrhenius, a proposé la chose suivante à partir de calculs qu'il a fait, c'est que très probablement, en fait, ces variations climatiques que la Terre avait connues dans le passé, donc ces changements entre période glaciaire et interglaciaire, devaient être associés à des variations de dioxyde de carbone, de concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, puisque le changement de température doit être relié à un changement de concentration en dioxyde de l'atmosphère. Donc lui, il avait proposé que pendant la dernière période glaciaire, on devait avoir une concentration en dioxyde de carbone qui était moins importante que celle qu'on a actuellement.
À partir de ces connaissances qui servent vraiment de socle à la climatologie encore actuellement, à partir de quand on s'est dit qu'il faudrait aller creuser dans la glace pour comprendre les climats du passé? Parce que c'est pas forcément une intuition simple à avoir, ça, d'aller chercher dans la glace des traces du climat du passé.
Oui, tout à fait, vous avez raison. C'est vrai que quand on est dans les régions polaires, moi je travaille plutôt dans les régions polaires, on a beaucoup de glace sous nos pieds. On a quand on est au milieu de la calotte polaire au Groenland, en Antarctique, on a plus de 3 km de glace sous nos pieds, et cette glace en fait, c'est de la neige qui s'est accumulée année après année. Donc en fait, on peut avoir l'intuition quand même que plus on va creuser en profondeur, plus on va avoir accès à de la neige qui est tombée il y a longtemps. Et ça, on va dire, c'est un peu l'idée de base. Et donc, les gens ont commencé à forer. Au début, ils ont foré avec des moyens rudimentaires. On peut imaginer, on prend une pelle et on creuse. Et ça, ça permet d'aller jusqu'à 10, 15 mètres de profondeur. Et puis après, on a voulu aller plus profond, puisque je vous ai parlé de 3 kilomètres de glace sous nos pieds. Donc, c'est plutôt à partir des années 1950 que les gens ont commencé à développer ce qu'on appelle des carottes de glace, donc un forage vraiment de carottes de glace. Donc c'est, ça s'appelle des carottes de glace, en fait, sont des cylindres d'environ 10 cm de diamètre et puis d'une longueur de qui peuvent être d'un à deux, trois, quatre mètres. Puis on va en forer plusieurs. Les uns plus profonds que les autres pour essayer d'aller le plus profond possible. Donc, dans les années 1950, c'est ce qui a commencé à être fait avec des forages qui atteignaient environ 100 mètres de profondeur et avec de la glace quand ça revenait à la surface, qui n'était pas forcément de très bonne qualité. Enfin, je veux dire que quand on remontait ces cylindres de glace à la surface, la glace était assez, assez cassante, donc peut-être difficile de mener des analyses dessus. Mais les analyses ont été faites quand même. Donc, en particulier, les gens se sont dit qu'il y avait du potentiel et puis les gens ont commencé à développer des mesures dessus. Donc, en particulier, en regardant la glace et de l'eau, donc en regardant les différentes molécules d'eau, donc on va avoir des molécules d'eau plus lourdes et d'autres plus légères en fonction des atomes qui les constituent, les différents isotopes des différents atomes. Et en regardant, en fait, cette proportion molécules d'eau lourde sur molécules d'eau légère, pour simplifier, on a vu qu'il y avait un lien entre ce rapport et la température qu'il faisait au moment où la neige est tombée. Donc ça, c'est un premier indicateur qui permet de, en regardant des couches qui sont tombées il y a longtemps, de savoir quelle était la température de l'atmosphère à ce moment-là.
Et ce travail-là, il a été fait notamment par le paléoclimatologue danois Will Dansgaard. Donc là, c'est vraiment, comme vous dites, Amaël Landais, la composition en oxygène de la glace qui traduit des températures du passé. On remonte jusqu'à quelle période à ce moment-là ?
Alors, à ce moment-là, donc, quand on est dans les années, donc, je dirais, ça a démarré donc, les forages... Quand on est sur quelques centaines de mètres, on ne va pas remonter très loin, on va remonter à quelques centaines d'années.
Ce qui est déjà
mais
pas mal.
Le gros. Pardon.
Oui, je disais ce qui est déjà pas mal, sans quelques centaines d'années.
Ce qui est déjà pas mal, mais on veut faire beaucoup plus. J'espère qu'on aura le temps d'en parler pendant cette émission. Donc à partir en fait de ce potentiel, les gens effectivement 100 mètres, ils se sont dit c'est pas mal, on arrive à faire des mesures effectivement, mais il y avait un énorme potentiel. Donc on a voulu développer des forages profonds en fait pour aller jusqu'au socle rocheux. Et ça c'était la grande affaire. Si on parle un peu d'histoire, du coup de l'année géophysique internationale qui était aussi une année polaire internationale en 1957-58. Et donc là, en fait, l'idée, c'était de faire des forages profonds pour faire de la science et de faire ça à la fois au Groenland et de faire ça en Antarctique. Et c'est là qu'on commence à parler effectivement de forages profonds. Et bon, celui qui est un peu... Bon, dont tous les glaciologues parlent, en fait, comme le premier grand forage profond, c'est un qui a été fait au Groenland sur en fait une base militaire à la base, qui est la base de Camp Century. Et donc, ce forage-là, donc, il a été terminé donc, dans les années 60. Et en 6 ans, ils ont atteint effectivement le socle rocheux à 1300 mètres de profondeur. Et là, on remonte plus loin dans le temps. On va remonter à plusieurs dizaines de milliers d'années.
Plusieurs dizaines de milliers d'années. Malheureusement, dans ces premières campagnes de forage, les résultats n'étaient pas toujours cohérents. Qu'est-ce qui posait problème à ces mesures à l'époque et pourquoi on n'arrivait pas toujours à des résultats qui étaient, disons, fiables ?
Alors, en fait, il faut toujours faire... C'est normal, la science, c'est du progrès. Donc, sans arrêt, alors, pourquoi on n'avait pas des résultats fiables ? Ça dépend pourquoi. Pour les isotopes de l'eau... Les résultats étaient assez fiables. On était capable effectivement de reconstruire les variations entre la dernière période glaciaire et l'actuelle. On enregistrait bien ces variations-là. Ce qui était beaucoup plus dur à analyser, ce sont les bulles d'air, en fait. Donc, dans la glace, on a un enregistrement de la composition de l'atmosphère du passé parce qu'on va piéger des petites bulles d'air dans la glace. Et si on arrive à récupérer ces bulles d'air qui sont piégées dans la glace, l'idée, hein, c'est ça, c'est de reconstruire la composition passée de l'atmosphère et en particulier la concentration en dioxyde de carbone dont j'ai parlé en introduction. Mais ça a longtemps été un véritable défi de reconstruire cette concentration en dioxyde de carbone parce que la première méthode qu'on avait qu'on avait proposé, c'était de faire fondre la glace pour récupérer les bulles d'air. Et là, en fait, on retrouvait des concentrations en dioxyde de carbone qui étaient totalement anormales, beaucoup plus importantes que la concentration actuelle qu'on a en dioxyde de carbone. Et l'autre chose qui limitait aussi beaucoup les analyses, c'est, je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est la qualité de la glace. Donc, la qualité de la glace, donc beaucoup de forages qui ont été faits au début, on était de la forêt la glace. Différentes techniques. Hein. On peut aussi forer la glace avec un carottier qu'on appelle thermique. On va faire fondre un anneau de glace. Et ça abîme en fait la glace et les analyses à mener dessus sont difficiles. Donc, au fur et à mesure des années, il y a eu des améliorations pour les techniques analytiques pour mesurer un maximum de traceurs dans les carottes de glace, dans la glace elle-même, dans les bulles d'air et puis dans les techniques de forage.
Est-ce que ces concentrations anormales en CO2 étaient dues, comme vous le dites, Amel Landais, à des défauts dans la méthode qui faisait que finalement, en analysant ces glaces directement, on provoquait une émission très très localisée, pour le coup, dans ces échantillons de CO2 liés à la manipulation.
Oui, alors, oui, mesurer le dioxyde de carbone dans la glace, en fait, c'est toujours pas facile. Mais alors, à l'époque, effectivement, pour mesurer le dioxyde de carbone, donc on faisait fondre la glace. Et le problème, c'est que dans la glace elle-même, en fait, on a des carbonates. Carbonate, c'est fait aussi de carbone, de dioxyde de carbone. Et donc, en fait, ça relarguait, quand on faisait fondre la glace, ça relarguait du dioxyde de carbone en plus. Et donc, on s'est aperçu que extraire les bulles d'air en faisant fondre la glace, ce n'était pas approprié pour mesurer la concentration en dioxyde de carbone. Donc, ce qu'ont fait les gens, ensuite, c'est qu'ils ont développé d'autres méthodes. Et les premiers qui ont fait ça, ce sont... en France, en fait, au laboratoire de glaciologie, donc notamment Robert Delmas et ses étudiants en thèse, qui ont développé une méthode qui permet plutôt de broyer la glace. Donc, on la garde sous forme de glace, mais on la broie. D'autres ont développé des méthodes à partir d'un grattoir, un peu comme une râpe à fromage. Et à partir de là, on peut sortir ce qu'il y a dans les bulles d'air, mais sans faire fondre la glace, donc sans produire du dioxyde de carbone additionnel par cette réaction des carbonates.
Et on va parler bien sûr de cet article fondateur de Robert Delmas, Jean-Marc Asensio et Michel Legrand, paru dans Nature en 1980. Mais avant cela, j'aimerais qu'on évoque une figure importante de la glaciologie française, Claude Lorius. En 1978, un forage marque vraiment l'histoire de la glaciologie. C'est celui réalisé par ce même Claude Lorius et ses équipes à proximité du dôme Concordia ou dôme C en Antarctique. Je vous propose d'écouter quelques explications de Claude Lorius au micro du journaliste Claude Francillon. C'était dans un reportage diffusé dans le journal télé de France 3 Rhône-Alpes le 5 juin 1978. C'est l'archive de Science Chrono.
Dans ce morceau de glace, il y a combien d'années représentées ?
Mais d'abord, cette glace s'est déposée il y a à peu près 30 000 ans, dans les régions centrales de l'Antarctique. Et ça représente à peu près la neige qui s'est accumulée pendant 50 ans. C'est-à-dire, si on découpe cette glace en petites tranches, on peut étudier ce qui s'est passé il y a 30 000 ans. On peut en particulier dire quelle température il faisait. On peut en particulier mesurer les poussières qu'il y avait dans l'atmosphère à cette époque.
Vos expéditions que vous avez menées dans l'Antarctique il y a cela quelques mois, quels étaient les principaux objectifs et les principaux pôles de recherche ?
Essentiellement, deux thèmes majeurs. La première affaire qui nous préoccupe, c'est de reconstituer l'histoire climatique de la Terre. Et je vous ai expliqué comment on pouvait le faire à partir de cette carotte. L'autre chose, lorsque l'on prend les couches de neige qui se sont déposées beaucoup plus récemment, on cherche à reconstituer le niveau de pollution globale de notre atmosphère.
Voilà la voix de Claude Lorius, Amel Landais, une voix qu'on ne peut pas ne pas entendre quand on parle de l'histoire de la glaciologie et de la paléoclimatologie dans cette seconde moitié du XXe siècle. Claude Lorius, on le sait, est décédé en 2023. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre cette voix ? Ah, et cette voix qui parle de ce forage aussi important dans l'histoire de la glaciologie.
Oui, alors moi je ne l'ai pas trop connu en fait, Claude Lorius, même si même s'il est mort que seulement récemment. Mais évidemment, c'est quelqu'un, c'est un acteur totalement majeur pour les glaciologues, français. Il a vraiment créé énormément de choses au niveau des forages, au niveau des techniques d'analyse. Et puis, il a aussi permis à la glaciologie française d'avoir accès à des forages un peu uniques, comme celui dont je n'ai pas parlé forcément tout à l'heure, de Vostok, qui était le premier forage qui a permis d'avoir plusieurs cycles climatiques, de remonter jusqu'à 400 000 ans avant aujourd'hui. Donc ça, ça a démarré dans les années 70 et ça a été une belle association pendant la guerre froide entre les Russes, les Américains et les Français. Mais oui, on va revenir sur ce forage, j'imagine, sur l'archive que vous avez diffusé.
Oui, alors ce effectivement, dites-nous un peu son histoire.
C'est un forage vraiment... Oui, excusez-moi.
Oui, non, je disais ce forage, racontez-nous justement son histoire, puisque c'est une histoire qui est assez impressionnante et qui a marqué l'histoire de la glaciologie.
Oui, tout à fait. Donc en fait, cette histoire, en fait, bon, Claude Lorius, c'est vraiment quelqu'un de terrain. Il est allé. J'ai parlé tout à l'heure de l'année géophysique internationale en 57-58, et c'est la première fois que Claude Lorius est allé sur le terrain antarctique. Il a passé un an à la station Charcot, qui était déjà une station un peu sur l'intérieur de l'Antarctique, et de là lui est venu vraiment le virus de l'Antarctique, comme il le racontait lui-même. Et c'est là qu'il avait fait des premiers carottages. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé en Antarctique. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas les techniques actuelles de satellites, de radars. Et il avait repéré cet endroit qui est au niveau du Dôme C, donc à 1000 km à l'intérieur des côtes. Et il avait repéré cet endroit donc très isolé, très froid. Hein, on est à moins 55 degrés en température moyenne annuelle. Et il avait eu cette intuition que vraiment, ce serait un site très intéressant pour la paléoclimatologie parce que il neigeait assez peu à cet endroit-là, donc on pourrait remonter finalement assez loin dans le temps sans avoir à creuser jusqu'au socle rocheux. Donc ils ont développé, il y a eu beaucoup de travail de développement d'un carottier, et en une seule saison, donc on imagine quand même on est seulement en quelques mois, ils ont réussi à forer 900 mètres, ce qui est assez exceptionnel, hein, on pourra parler plus tard même des forages actuels. Donc 900 mètres en une seule saison, et à partir de 900 mètres de glace, ils avaient un enregistrement qui faisait déjà 30 à 40 000 ans avant aujourd'hui. Donc c'est vraiment le premier carottage profond, on peut dire, qui a été piloté par la France sur cet endroit très, très isolé. Et c'est encore aujourd'hui un site qu'on estime très bien choisi, puisqu'on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a eu plus tard en fait des forages épicables, ayant des picasses, peut-être on en reparlera tout à l'heure, qui sont finalement à seulement 70 km de ce site qui avait été choisi par Claude Lorius.
Et des forages auxquels vous participez activement encore aujourd'hui, Amaël Landais. On en revient du coup à cette équipe de jeunes chercheurs, de Robert Delmas, entouré de ses étudiants, Jean-Marc Asensio, Michel Legrand, qui écrivent un article paru dans la revue Nature en 1980. L'article s'intitule, si je traduis en français, « Les glaces polaires prouvent que le CO2 atmosphérique, il y a 20 000 ans, représentait 50% du niveau actuel ». Vous évoquez tout à l'heure cette méthode d'extraction sèche mise au point par Robert Delmas et ses collègues, un broyage de la glace sous vide à une température de moins 40 degrés. C'est une méthode qui va être reprise ensuite partout, dans tous les laboratoires de glaciologie. En quoi cette méthode permet-elle aux mesures du CO2 contenu dans les bulles d'air de la glace d'être enfin totalement fiable ?
Oui, je vais reprendre un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça permet de n'extraire que les bulles d'air et de ne pas avoir l'interaction entre la glace fondue, donc l'eau et l'air en fait. Donc là, on est sûr qu'on extrait que les bulles d'air, pas de problème de pollution chimique par la glace elle-même. Et à partir de là, effectivement, on arrête d'avoir des anomalies de concentration en dioxyde de carbone quand on fait ces mesures. Et bon, pour être totalement honnête, hein, les Suisses étaient aussi en train de travailler sur une méthode similaire au même moment. Et en fait, voilà, donc on a les deux équipes qui, c'est quand même l'équipe de Robert Delmas qui a publié d'abord.
Mais on
a ces deux équipes qui mesurent, en fait, et même encore aujourd'hui, hein, c'est l'équipe de Grenoble, c'est l'équipe de Berne qui mesure le dioxyde de carbone dans les bulles d'air. Et voilà, c'est vraiment, ça remonte vraiment aux années 80. Et vraiment, on a les premières lignes qui permettent de faire ces mesures extrêmement importantes pour comprendre la dynamique de notre climat et le lien avec la composition de l'atmosphère.
Et c'est important, comme vous le dites, Amaël Landais, de rappeler que dans l'histoire des sciences, souvent, tout le monde travaille un petit peu en même temps sur des mêmes thématiques, et c'est pas toujours une personne ou un groupe de personnes qui va avoir l'idée Eureka. Le glaciologue, quand même, Jean-Robert Petit, parle dans un entretien accordé au journal du CNRS en 2020, en parlant de cet article, il dit... Ça a été un big bang pour la communauté scientifique. Alors pourquoi cet article marque-t-il autant un avant et un après dans l'histoire non seulement de la glaciologie, mais aussi de la climatologie ?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs, peut-être évoquer plusieurs raisons. Alors, déjà, on confirme quelque part la théorie d'Arrhenius dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement pendant les périodes glaciaires on a moins de dioxyde de carbone qu'à l'actuel, donc on sent qu'on commence à avoir un premier lien en fait entre changement de dioxyde de carbone et changement de température. Donc là, bon, le papier, on ne peut pas montrer la figure à la radio, mais c'est quelques points de mesure qui sont publiés dans cet article. Mais à partir du moment où on a la technique pour mesurer ce dioxyde de carbone, ça va être possible de le mesurer à beaucoup plus haute résolution, donc avoir énormément de points pour couvrir les variations glaciaires, interglaciaires à partir de forages profonds. Et donc là, effectivement, ça ouvre un boulevard pour la recherche en glaciologie, puisque combiné avec les mesures en isotopes de l'eau dont j'ai parlé tout à l'heure, là, rapport aux lourdes, aux légères, on va pouvoir étudier finement le lien entre dioxyde de carbone et température. Et ce qu'on observe, donc ça, on observe ça plusieurs dizaines d'années après, c'est qu'en regardant les successions des cycles glaciaires interglaciaires, donc par exemple sur le forage de Vostok, sur le forage d'Épica dont je parlerai tout à l'heure, on trouve un couplage très fort au cours de plusieurs centaines de milliers d'années entre variations de température et variations de concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère.
Comment
ça, c'est une chose. Oui.
Allez-y.
J'allais dire autre chose.
Allez-y, je vous en prie.
Mais si vous voulez, peu importe. Et l'autre chose qui est quand même importante, grâce à toutes ces mesures de dioxyde de carbone qui ont pu être faites grâce à ces nouvelles techniques d'extraction sèche, c'est qu'en fait, on a montré qu'au cours des derniers 800 000 ans, la concentration en dioxyde de carbone n'a jamais été aussi élevée que ce qu'on a actuellement et qui a commencé à augmenter très fortement depuis qu'on a l'influence humaine, donc voilà.
Ben voilà, c'était ma question suivante en fait. C'était comment la glaciologie et ses études des carottes de glace nous renseignaient sur le réchauffement climatique actuel, son rythme, son intensification. Quelles preuves indéniables on a dans ces carottes de glace de l'intensification de ce réchauffement climatique à partir de l'analyse du CO2 contenu dans ces bulles d'air.
Alors, pour être totalement honnête, vraiment, la preuve irréfutable qu'on a, c'est qu'actuellement, on est à 425 parties par million de concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et on sait qu'au cours des derniers 800 000 ans, tant qu'il n'y avait pas l'influence humaine, on était en dessous de 300 parties par million. Donc très clairement, là, il n'y a aucun doute, nous avons modifié la composition de l'atmosphère. Ensuite, donc l'autre chose, c'est qu'il y a un couplage très fort entre variation de température et variation effectivement de dioxyde de carbone. Donc très clairement, la concentration en dioxyde de carbone joue un rôle sur l'évolution sur l'évolution du climat. Après, si vous voulez vraiment comprendre toute la complexité du système climatique, la vitesse à laquelle les choses changent, il faut tout de même rester un tout petit peu prudent, parce que ce qu'on peut dire à partir des carottes de glace, c'est l'évolution du climat et de la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère quand l'homme n'avait pas vraiment d'influence, donc quand je parle des transitions glaciaires interglaciaires, et maintenant ce qu'on montre finalement aussi avec les carottes de glace, c'est qu'on est passé à une autre dimension en fait, où les choses vont beaucoup plus vite. Donc les variations qu'on observe nous de changement en dioxyde de carbone, ça va être de l'ordre de 80 parties par million en quelques milliers d'années, et là, chaque année, on prend 5 à 10 ppm parties par million d'augmentation. Et donc, on a complètement changé le système, si vous voulez.
Oui. À partir de ces années 80-90, quelles autres grandes campagnes de carottage et de forage vont être réalisées, notamment par les chercheurs français? On parlait tout à l'heure de ce programme EPICA. Est-ce que vous pourriez nous en parler, nous dire un petit peu quels étaient les objectifs de ce genre de grandes missions en glaciologie qui, elles aussi, ont marqué l'histoire de la glaciologie récente?
Oui, mais tout à fait. je vais le faire. Donc, le forage EPICA, c'est un forage européen qui a démarré pendant les années 1990. Et le but, c'était d'avoir une carotte de glace qui remontait le plus loin possible dans le temps. Donc, à cette époque-là, on n'avait pas encore publié toute... les glaciologues, parce que moi, je n'étais pas encore travaillé dessus. Ils n'avaient pas encore publié toute la courbe de Vostok, hein, donc qui, sur ce projet, en fait, en collaboration avec les Russes, hein, le forage russe, qui remonte jusqu'à 400 000 ans aujourd'hui. Et donc là, le but, c'était d'aller vraiment le plus loin possible. Donc, les gens sont installés à pas loin d'où avait travaillé Claude Lorius, sur l'extrait que vous avez présenté, la Dôme C. Donc, il y a une station qui est maintenant construite ici, qui est la station Concordia, donc à 70 km de l'endroit où Claude Lorius avait fait son premier forage, et donc un forage profond a eu lieu, et cette fois-ci les foreurs sont allés beaucoup plus loin que les 900 mètres de Claude Lorius, mais parce qu'ils y sont allés plusieurs saisons de suite, puisqu'une station a été installée. Et donc le forage, en fait, est allé jusqu'au socle rocheux, qui est à plus de 3 km 200 de profondeur. Ensuite, cette glace a été analysée, et pour vous dire la vérité, est encore analysé aujourd'hui. On en a encore qui est analysé aujourd'hui au laboratoire. Et ça permet de reconstruire l'évolution du climat et de la composition de l'atmosphère sur les derniers 800 000 ans. Donc, on est déjà allé beaucoup plus loin sur l'histoire du climat et de l'atmosphère. Et c'est sur cette carotte de glace qu'on a vraiment les reconstructions les plus précises, hein, de changement de dioxyde de carbone, de température, puisque la qualité de la glace était déjà bien supérieur à ce qu'on avait pu avoir avant. Et puis, le site avait aussi été extrêmement bien choisi, ce qui n'était pas forcément le cas de tous les carottages qui avaient été faits précédemment.
Après la mission EPICA, Amaël Landais, il y a la mission Beyond EPICA. Donc là, on cherche à aller encore plus loin. Une question tout à fait naïve, mais pourquoi on cherche à aller encore plus loin? Est-ce que quel sens donner justement à cette quête de traces de climat encore plus anciens et de variations encore plus anciennes, maintenant qu'on a établi quand même deux, trois petits phénomènes sur ces variations climatiques dans le temps long?
Oui, alors, allons sur Beyond EPICA. Donc, EPICA, ce que je vous disais, c'est que ça a été foré, ça a démarré dans les années 90, ça s'est terminé au début des années 2000, donc ça a pris du temps pour être foré, ça a pris des années pour être mesuré. Entre-temps, il y a eu quelques forages quand même au Groenland, et puis il y a des forages par d'autres équipes, notamment les Américains en Antarctique. Et aussi, vous savez que quand on étudie le climat du passé, on n'a pas que les carottes de glace, on a aussi d'autres archives, notamment dans l'océan. Et dans l'océan, on peut remonter beaucoup plus loin dans le temps qu'à partir des carottes de glace. On n'a pas les mêmes informations. Et dans l'océan, en fait, à partir des sédiments océaniques notamment, eh bien, on sait qu'en remontant loin dans le temps, donc si on remonte au-delà de 1 million d'années, eh bien, on va avoir une périodicité différente des successions des périodes glaciaires, interglaciaires, un changement moins grand, en fait, entre périodes glaciaires et interglaciaires. Et puis, en moyenne, une température peut-être un peu plus élevée, si on prend la moyenne de la température entre périodes glaciaires, interglaciaires, par rapport à ce qu'on a au cours des dernières centaines de milliers d'années. Et ça, on ne comprend toujours pas pourquoi il y a eu ce changement, en fait, ce changement de périodicité du climat, et puis pourquoi ce changement peut-être de température moyenne. Et une des grosses hypothèses à tester dans la communauté des climatologues, c'est est-ce que ce changement de climat est lié à la concentration en dioxyde de carbone. Et en fait, une hypothèse très forte, c'est que la concentration en dioxyde de carbone, il y a plus de 1 million d'années, était plus élevée que celle que nous avons actuellement. Et pour ça, il faut donc remonter plus loin dans le temps. Et c'était une des motivations premières du forage Beyond EPICA, qui a duré assez longtemps. Il y a eu 3 années pour repérer le site. Et puis, en 2019, le site a été choisi, le forage a démarré et il a atteint le socle rocheux, donc à 2 800 km en janvier dernier.
Et là, ça va livrer ses résultats, ces forages dans le cadre de Beyond EPICA bientôt, très prochainement. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Amaël Landais, vous travaillez dessus, et on vous souhaite bon courage dans ce travail. Merci beaucoup de vous être rejointe à nous et d'avoir réalisé cette mission impossible de résumer quasiment un siècle de glaciologie en 28 minutes. Je vous remercie encore et puis vous reviendrez parler à ce micro des résultats de Beyond EPICA.
Trees have fingers that they steal the eyes from leaves. Why may I not go play out in the barn? The barn hand may take you and drown you in the tar. Why?
taken by the rest. Where will the sun be when the sky is black? You will have all night to ponder about there.
May I not go out and climb the trees par Daniel Norgren dans Science Chrono sur France Culture. Merci à Olivier Bétard qui teste mon anglais avec ce genre de titre. Après avoir été dans les déserts de glace, on se présente maintenant aux portes d'un désert de sable. On part au Maroc à la découverte d'un site médiéval de premier ordre.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
Aux portes du Sahara, une cité marocaine a été prospère pendant près de 1000 ans avant de connaître un déclin, son nom, Sijil Massa. Si l'on connaît, grâce à de nombreux textes, l'histoire de cette cité ayant frappé des monnaies d'or qu'on a retrouvées jusqu'en Chine, son patrimoine archéologique est soit disparu, soit encore à découvrir malgré quelques campagnes de fouilles qui ont pu être réalisées sur le site depuis les années 1970. Comment expliquer la longévité de ce comptoir médiéval, décrit comme une cité vaste, aux mosquées imposantes et aux jardins florissants, et comment, sur la base des textes qui parlent de Sijil Massa, partir à la recherche du patrimoine archéologique de cette cité capitale à la croisée des mondes qui s'est comme évaporée à l'entrée du désert. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de Chloé Capel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue chargée de recherche au CNRS, au laboratoire Orient et Méditerranée au sein de l'équipe Islam médiéval, et vous êtes l'autrice du livre Sijil Massa, Porte du Sahara, histoire et archéologie d'une ville oasienne médiévale du sud marocain, paru aux presses universitaires de Rennes. Merci beaucoup de venir nous raconter aujourd'hui l'histoire de ce site de Sijil Massa, une histoire qui a connu de nombreux rebondissements politiques, économiques, culturels et dont il reste encore à trouver la grande majorité des traces matérielles. Avant de faire le portrait historique et archéologique de cette cité, qui a connu une longévité, je le disais, hors pair, j'aimerais qu'on la situe dans l'espace où se trouve, Chloé Capel, Sijil Massa.
Sijil Massa est situé sur la frange nord du Sahara, du désert du Sahara, actuellement en territoire marocain, au pied du Haut Atlas, sur la frontière avec l'Algérie. Pour les auditeurs familiers du Maroc, certains d'entre eux sont sans doute allés faire du ski ou du dromadaire sur les dunes de Merzouga. Nous sommes tout près du site très touristique de Merzouga, dans une région qui s'appelle le Tafilalt. Le Tafilalt en berbère, ça signifie un espace plan, plat. Effectivement, Sijil Massa est niché au cœur d'une plaine, mais cette plaine est entourée de reliefs. Et surtout, cette plaine complètement désertique, il ne pleut pas, il n'y a pas de végétation. Cette plaine est traversée du nord au sud par un oued qui rentre en crue périodiquement, qui prend la naissance dans le Haut Atlas et qui constitue la source de vie dans cet espace par ailleurs très hostile et qui est la raison pour laquelle une niche écologique s'est développée ici et a pu permettre la vie.
Cet oued aura bien sûr son importance dans la prospérité de Sijil Massa, en tout cas dans la constitution de Sijil Massa en tant que cité. Aujourd'hui, si on se rend sur le site de Sijil Massa, qu'est-ce qu'on voit comme preuve de ce passé brillant dont on va parler dans un instant ?
Au premier abord, absolument rien. On est très déçus. Le site se présente comme un vaste terrain vague de plusieurs dizaines, si ce n'est centaines d'hectares, au milieu d'une palmeraie, une palmeraie immense qui porte le nom de Tafilalt également. Et ce terrain vague, d'où émergent quelques ruines ça et là, est vraiment inhospitalier. Il est situé en périphérie d'une agglomération, l'agglomération moderne de Rissani, qui a remplacé la ville ancienne de Sijil Massa. Et il est en grande partie couvert de détritus. Le site archéologique est devenu le dépotoir de la ville de Rissani. Une petite partie, simplement, a été récemment protégée derrière des murs et constitue dans l'imaginaire collectif le site archéologique, mais qui est en réalité beaucoup plus vaste que ce qu'on peut voir aujourd'hui.
On va parler donc de ces vestiges, de cette archéologie, de cette cité brillante sous ces détritus qui constituent aujourd'hui le sol en surface de Sijil Massa. Comment naît l'agglomération de Sijil Massa au Moyen-Âge? Autour de quelle communauté humaine, autour de quels habitants va naître cette cité-là ?
Alors, ce que l'on sait de Sijil Massa aujourd'hui, en majorité, c'est grâce aux sources textuelles produites dans le monde musulman, produites dans le bassin méditerranéen. Aucune source n'est issue de Sijil Massa, c'est important de le dire. Ce sont des sources de seconde main, avec des témoignages de seconde main. Ce que nous disent les textes sur Sijil Massa, c'est que l'agglomération, l'occupation humaine à Sijil Massa est née dans le courant du 8e siècle, autour d'une communauté religieuse constituée autour d'un prosélyte musulman qui va introduire introduire la nouvelle foi, la nouvelle religion dans cette région, et autour de cette communauté de bergers, sans doute nomades, vivant probablement sous la tente, petit à petit va se créer une communauté politique d'abord, un émirat qui va devenir une structure politique, une cité-état autonome dans un premier temps, et l'agglomération, la ville de Sijilmassa, qui va devenir gigantesque en quelques siècles, entourée d'une palmeraie qui fait partie prenante de l'histoire de la ville.
Donc là, on rappelle quand même, oui, le contexte, c'est au 8e siècle, c'est en plein pendant la conquête musulmane que naît Sijilmassa, et comme vous le dites, cette agglomération va prendre une ampleur très très conséquente. Si on doit faire à gros traits les grandes étapes, les grandes évolutions et les grands changements de la cité de Sijilmassa, quelles pourraient être les grandes époques qui ont marqué l'histoire de cette cité ?
Ce que nous disent les textes, c'est que Sijilmassa a d'abord été une entité politique autonome, une cité-état, jusque dans le courant du XIe siècle, jalousée par beaucoup de pouvoirs environnants. Beaucoup d'armées se sont opposées pour essayer d'en prendre le contrôle, pour des raisons économiques, on en parlera sans doute, notamment l'émirat de Cordoue, en Espagne, qui n'avait pas de continuité géographique avec Sijilmassa et qui en a fait la conquête pendant quelques décennies. Et puis, l'autonomie de la ville prend fin au XIe siècle, elle est intégrée aux grands empires berbères qui vont contrôler tout le Maghreb, avec comme capitale Marrakech. Et puis, à la fin du Moyen-Âge, la ville va prendre beaucoup plus d'autonomie, reste une province sous le contrôle de Fès, mais devient à plusieurs reprises une ville de dissidence, devient de nouveau autonome, et toujours disputée par d'autres pouvoirs, et finit par disparaître en tant qu'agglomération dans le courant du XIVe siècle, mais la région reste occupée et l'habitat va se transformer sous une autre forme.
Vous le disiez tout à l'heure, Chloé Capel, on connaît beaucoup Sijilmassa par les textes et finalement assez peu par ses vestiges. Quelle importance ça a pour vous en tant qu'archéologue de faire des fouilles en partant de textes ? Est-ce que c'est si courant que ça en archéologie ? Et si oui ou non, voilà, quelle difficulté ça implique ?
À l'heure actuelle, l'archéologie médiévale au Maghreb est avant tout conditionnée par les textes. Et nous choisissons des sites parce que nous avons des mentions de ceci dans des textes et quelques indices sur la chronologie. C'est une pratique qui évolue comme partout dans le monde, notamment grâce à l'archéologie préventive qui nous fait aller vers d'autres directions. Mais moi, dans ce travail que j'ai conduit ces dernières années sur Sijilmassa, je n'ai pas pu m'affranchir des sources historiques. Aussi parce que mes devanciers sur les précédents d'archéologues qui ont travaillé sur ce site étaient aussi guidés par les textes. Et c'est assez difficile de s'en détacher pour une question de chronologie, tout simplement parce que l'état de la recherche en archéologie ne nous permet pas d'établir des chronologies très précises, on se fie à celles des textes. Et puis c'est une source précieuse pour un contexte global de compréhension des dynamiques sociales, des dynamiques politiques qu'on ne parviendrait pas à comprendre sinon sans ces ressources textuelles.
Quel portrait se dessine de Sijilmassa dans ses chroniques médiévales, donc ses chroniques écrites? Quelle image on a de cette ville, je le disais, un peu florissante, ça fait un peu rêver comme ça, quand on n'a pas les vestiges encore plus.
Tout à fait. C'est une ville, tout d'abord, ce qui est assez exceptionnel au Sahara, dans un contexte hostile, où la vie est difficile, où se nourrir est difficile, où s'approvisionner en eau est difficile. C'est une ville, et ce qui a marqué les chroniqueurs, c'était une ville verte, donc une ville dotée de jardins, d'une très belle architecture et de jardins, sans qu'on sache vraiment si les jardins étaient dans la ville, autour de la ville, si c'était un urbanisme dense ou aéré. Ce que l'on sait également, c'est que, et c'est la raison pour laquelle elle a laissé une trace dans les texte, c'était une ville marchande et c'était une ville commerçante et une ville d'escale sur les routes du commerce transsaharien, et c'est la clé de compréhension du destin de cette ville, c'est qu'elle a été pleinement intégrée et sans doute un moteur également de ce commerce transsaharien qui pendant plusieurs centaines d'années a relié, a connecté le bassin méditerranéen aux sociétés établies en Afrique équatoriale, et Sijilmassa a été une sorte de point de relais entre ces deux bassins économiques.
Une vraie croisée en fait finalement des mondes. Alors on le disait tout à l'heure, on a situé Sijilmassa sur la carte du Maroc, aux portes du désert. Certains chroniqueurs médiévaux décrivaient l'environnement de Sijilmassa comme un enfer. Il y avait quand même pas mal d'avantages dans la région. Vous parliez tout à l'heure de cette oued. Quels étaient les autres potentiels avantages à installer une cité ici ?
Alors l'archéologie nous donne une vision assez sensiblement différente de celle des textes. Dans les textes, de manière assez unanime, c'est un enfer, Sijilmassa. Dans cet enfer qu'est le Sahara, Sijilmassa bénéficie d'un micro-environnement particulièrement favorable, qui est une dépression au milieu de relief et qui en cela draine à elle de nombreuses ressources en eau, si je puis dire. Nombreuses, le mot est un peu fort.
Localement,
ce sont des ressources en eau nombreuses, et ce qui a permis aux hommes, aux riverains, aux habitants de la région, de en maîtrisant l'eau, de construire leur société. Et donc, les textes nous parlent d'un enfer, mais localement, il y a de la vie et il y a cette palmeraie, aujourd'hui gigantesque, encore aujourd'hui, la palmeraie du Tafilal, qui à l'heure actuelle est encore la plus vaste palmeraie du Maroc, 150 km², qui est pleinement d'origine médiévale et qui n'est pas un paysage naturel, qui est le résultat de centaines d'années de travail de la terre, des hommes, des femmes, de terrassement, d'adduction d'eau, d'extraction de l'eau, pour convertir un sol stérile en une terre arable fertile qui produit et qui a produit beaucoup par le passé.
Alors produit, justement, quel type d'élevage, quel type d'agriculture était pratiqué à Sijilmassa ? Est-ce que c'était central dans la prospérité et la croissance de cette cité-là ?
Alors, les textes passent complètement sous silence la dimension agricole de Sijilmassa. C'est très, très éthéré, on parle de verdure, mais sans plus de détails. Ce que l'archéologie a réussi à démontrer au cours des dernières décennies, c'est que vraisemblablement, l'agriculture est centrale dans l'économie de Sijilmassa. Et la thèse que je développe, c'est que c'est grâce à l'archéologie, à l'agriculture et à la production agricole, que Sijilmassa a pu devenir un centre caravanier aussi important. Je formule l'hypothèse que c'est grâce aux productions de cette palmeraie gigantesque qui excède en loin les besoins simples de la société locale, que les habitants de Sijilmassa ont pu produire des stocks considérables pour se nourrir eux-mêmes, bien évidemment, mais également pour nourrir les visiteurs, les caravaniers, les commerçants, les marchands qui venaient, qui se présentaient aux portes de la ville, et les animaux, le bétail, les chameaux, les centaines, les milliers, les dizaines de milliers de chameaux qu'il fallait emmener en caravane pour une traversée de plusieurs mois, où on emportait sur le dos des bêtes le fourrage pour cette traversée, on emportait la nourriture, les dattes, les céréales pour les marchands, probablement de la viande séchée également, et ce qui constitue la clé, on mangeait sans doute pas très bien au Tafilal, pas de manière aussi variée et riche qu'ailleurs au Maghreb, et d'ailleurs les rares études archéobotaniques qui ont été menés là-bas ont bien prouvé le caractère assez austère du régime alimentaire, mais c'était tout de même de la nourriture et c'était suffisant pour attirer et être un argument de poids dans la chaîne opératoire du commerce.
Donc c'est fascinant d'imaginer finalement Sijilmassa comme le dernier stop, le dernier arrêt avant la traversée du Sahara pour ces marchands et où il fallait, comme vous le dites, faire des provisions et envisager, voilà, d'emmener tous ces éléments qui étaient nécessaires à cette traversée du désert. C'est une ville aussi également d'artisanat, de commerce, de marchands, de transformation, de matières premières. Quels étaient les types d'artisanat qui étaient pratiqués à Sijilmassa?
Alors là encore, les textes sont totalement muets sur les autres activités, autres que commerciales à Sijilmassa. Ce que l'on en devine par l'archéologie, c'est que très probablement, tout d'abord, le bassin du Tafilalt a été une source d'extraction minière très importante, jusqu'à aujourd'hui, de fait, avec des métaux qui ne sont pas a priori précieux, le plomb argentifère, alors probablement une certaine production d'argent. Sijilmassa a frappé monnaie, ce qui était un apanage assez rare dans les villes médiévales, et surtout pour une ville aussi isolée au Sahara, mais probablement aussi des ressources qui étaient exportées vers le sud, vers les sociétés subsahariennes, dont on ignore beaucoup de choses sur l'économie. Et puis, très probablement, le sel également, et ça a été une assez grande découverte de l'archéologie. Il y avait très probablement une grosse production de sel à Sijilmassa, dont on sait par ailleurs par les textes que c'était une monnaie d'échange considérable dans le commerce transsaharien et un intermédiaire indispensable entre les productions offertes par les pays méditerranéens et les productions offertes par les pays du sud.
Les textes font état pour Sijilmassa, Chloé Capel, d'une richesse très très conséquente. Vous l'évoquiez à l'instant, c'était une cité qui frappait monnaie en or. Quelle importance ça avait dans ce monde musulman en pleine expansion de frapper des monnaies en or? Et si l'or n'était pas présent localement, d'où venait cet or?
C'est tout l'enjeu du commerce transsaharien. Ce que l'on perçoit aujourd'hui, c'est que le bassin méditerranéen, depuis l'époque médiévale et à l'initiative des pays musulmans, et l'histoire remonte à Damas, au Proche-Orient, au 8e, au 9e siècle, l'économie méditerranéenne repose sur une monnaie en or que cette région n'est pas capable de produire. Et c'est la raison d'être première de ce commerce qui est allé organiser un échange avec les sources de cet or. Les sources sont présentes en Égypte, en Égypte orientale, mais également un autre gisement considérable à l'époque, c'est en Afrique équatoriale, en Afrique de l'Ouest, les régions actuelles du sud Sénégal, de la Guinée, du Mali. Et c'est pour drainer cet or ouest africain que les caravanes ont été organisées et ont fait remonter vers le nord ces quantités d'or apparemment considérables, qui ont intéressé plus tard aussi les Européens en cherchant à développer le commerce le long des côtes africaines. Et Sigil Massa a eu pour rôle de concentrer une partie de ce flux venant du sud et de le transformer, de transformer la matière première, probablement sous forme de poudre ou de petits lingots, en monnaie. Et Sigil Massa, qui n'a jamais été vraiment capitale d'empire, a pourtant frappé monnaie d'or, pendant 6 siècles, ce qui est une longévité exceptionnelle et unique comme atelier de frappe au Maghreb.
Frapper des monnaies, c'était justement, comme vous le dites, Chloé Capel, une prérogative, une priorité, enfin en tout cas quelque chose qui était pratiqué que dans les grandes cités et les capitales. Ces monnaies-là, elles allaient où dans ce vaste empire musulman ?
Alors elles ont d'abord été probablement utilisées pour un commerce régional, local, au sein du Maghreb de l'Ouest, du Maghreb plus généralement. Mais les banques mondiales, si je puis dire, regorgent dans leur collection de monnaies médiévales et de monnaies en or médiéval, de dinars d'or, frappées à Sigil Massa. On a des collections de ces monnaies dans quasiment tous les pays du monde et on en a retrouvé en contexte archéologique en Europe, jusqu'en Scandinavie, en Orient bien évidemment, au Proche-Orient qui était culturellement lié au Maghreb et au-delà en Asie centrale et jusqu'en Chine, des découvertes de ces dinars frappés à Sigil Massa.
Comment on sait que ce sont des dinars qui proviennent bien de Sigil Massa ?
C'est écrit dessus.
Tout simplement.
Pour la plupart d'entre eux, c'est écrit dessus, l'atelier est mentionné explicitement sur les monnaies.
Quelles spécificités elles ont du coup, ces monnaies-là, en quoi on les reconnaît au-delà du fait que c'est écrit dessus que ça a été frappé à Sigil Massa et quel style finalement elles revêtent ?
Alors les monnaies frappées à Sigil Massa, les plus célèbres sont en or, mais Sigil Massa a aussi frappé des monnaies d'argent et très probablement de cuivre. Ces dernières, on est un peu plus en peine de les identifier. Pour ce qui est des monnaies d'or, les numismates qui ont travaillé dessus ont démontré que, notamment au XIe et XIIe siècle, la pureté de l'or utilisée dans ces pièces était exceptionnelle, bien supérieure à toutes les autres productions d'or ailleurs au Maghreb. Et puis, elles ont été copiées également, ces monnaies, notamment en Europe. On a essayé de produire des monnaies d'or de même valeur, mais ça n'a pas vraiment marché, elles n'avaient pas exactement la même valeur. Et puis, elles ont évolué stylistiquement en fonction des pouvoirs, en fonction des systèmes dans lesquels elles étaient utilisées, mais elles se sont distinguées par leur grande qualité jusqu'aux dernières productions dans le courant du XVIe siècle.
Les pouvoirs ont beaucoup changé dans cette histoire du monde musulman. Quels étaient les liens entre Sigil Massa et par exemple à l'Andalous, avec le pouvoir plutôt situé dans le monde arabe? Quels étaient, à quel endroit se situait finalement Sigil Massa dans ce réseau d'influence musulmane?
Le peu que l'on perçoit à travers les textes, c'est que Sigil Massa était assez centrale dans les préoccupations des États et que elle a fait l'objet d'expéditions militaires à un certain nombre de reprises dans le temps, un certain nombre de sièges. Il y a eu plusieurs dizaines de sièges à travers l'histoire de la ville pour en prendre le contrôle, soit de manière proche, si je puis dire, Fès, Marrakech, qui ont été les capitales du Maghreb extrême, mais plus lointainement, Cordoue, Kairouan, ont essayé de contrôler la ville. Et il y a aussi à une époque plus récente, des enjeux d'héritage. On attribue Sigil Massa comme un héritage filial pour, quand on est émir, pour par exemple juguler la menace que le fils pourrait représenter sur le père en lui offrant ce territoire qui est un cadeau pour ses ressources économiques. Et puis finalement, à l'époque moderne, Sigil Massa est devenu un lieu d'exil, un lieu de relégation finalement, où les princes de la famille alaouite étaient envoyés pour justement ne pas menacer le pouvoir en étant physiquement éloigné, mais Sigil Massa a gardé une place considérable dans la construction politique sous différentes formes de tous ses pouvoirs.
Alors vous nous avez fait le très beau portrait historique de Sigil Massa, Chloé Capel, mais vous êtes archéologue et vous travaillez sur ce site-là en tant qu'archéologue. Vous le disiez au début de cette émission, au début de cet entretien archéologique, finalement quand on va à Sigil Massa aujourd'hui, on n'a pas trop de traces matérielles de ce passé glorieux. Quelles traces y a-t-il quand même ? Est-ce qu'on a des preuves architecturales de la grandeur de Sigil Massa ? Quels sont les éléments dans ce paysage assez plan qui nous rappelle la grandeur de Sigil Massa ?
À première vue, les traces ne sont pas très nombreuses. En réalité, à qui regarde bien et regarde longtemps et à qui est patient, comme je le suis, les indices sont partout et ce site est exceptionnel, fabuleux. Il y a des vestiges archéologiques partout, sur des dizaines de kilomètres à la ronde. Ce n'est pas uniquement une ville, un tel archéologique principal. Il y a des centaines de sites satellites dans toute la région du Tafilalt, étroitement connectés à Sijilmassa. Mais il est vrai qu'en surface, c'est assez austère. C'est difficile de percevoir les occupations. L'architecture était une architecture de terre et probablement également de matériaux périssables dont on a du mal à percevoir les vestiges en surface. Donc c'est assez peu spectaculaire. Ce qui est peut-être le plus spectaculaire dans la Palmeraie et aux alentours, ce sont les aménagements hydrauliques qui, eux, sont partout, à toutes les périodes, à de toutes les périodes, et soulignent combien le paramètre hydraulique était décisif dans la vie de cette ville.
À quoi ressemblent ces installations-là, si on doit en prendre quelques exemples, et qui vous ont, vous, particulièrement impressionné?
Alors là, moi, le choc ultime de ce travail à Sijilmassa, ça a été la découverte du Ziz, ou plus exactement du canal du Ziz. Donc le Ziz, c'est le nom de l'oued qui traverse la région, du nord au sud. Et cet oued, qui est décrit d'ailleurs dans les textes comme la source de vie, est en réalité, ça a été la découverte archéologique des dernières décennies, et de construction totalement artificielle. C'est un canal construit de main d'homme à destination de l'irrigation et dans le but précisément de développer la palmeraie du Tafilalt et de développer ces 150-200 km² de culture grâce donc à un détournement total du cours naturel de l'oued. Le canal du Ziz se situe à une vingtaine de kilomètres du cours naturel du fleuve. Il mesure une quarantaine de kilomètres de long, une trentaine de mètres de large. C'est une rivière véritablement qui détournait l'intégralité du flux de cette oued, notamment au moment des crues. Et ces crues, contrairement à ce qui se passe ailleurs au Sahara, qui en général sont imprévisibles, liées aux orages, au Tafilalt, elles sont prévisibles parce qu'une partie de ces crues provient de la fonte des neiges du Haut Atlas. Et donc cette oued rentre en crue pendant plusieurs semaines avec un débit d'un fleuve méditerranéen, si je puis dire. Et cette source en eau, qui est le trésor du Tafilalt, a été de manière extrêmement ingénieuse et sophistiquée, maîtrisée par l'homme, détourné, façonné, dirigé, orienté pour l'utiliser à des fins d'irrigation. Et c'est ce marqueur, en fait, c'est cette oued, ce canal, qui définit en quelque sorte tout le paysage actuellement du Tafilalt.
Alors Chloé Capel, si ce site est aussi important dans les textes, et que, comme vous le dites, les traces archéologiques de la grandeur de Sijilmassa sont partout, pourquoi n'a-t-on pas connu plus de campagnes de fouilles sur place? Puisque je crois qu'il y a eu relativement peu, finalement, de fouilles archéologiques réalisées sur place.
Le site est ingrat. Le site est ingrat avec ces
archéologues. C'est dur, c'est un métier physique.
C'est dur. L'environnement est dur tout d'abord. Le climat est dur. Venteux, sec, aride. Jusqu'il y a peu, l'endroit était isolé, difficile d'accès. Il y a maintenant, grâce au tourisme, le goudron qui va jusqu'au Tafilalt. Mais les conditions d'accès étaient difficiles. Le désintérêt des archéologues pour Sijilmassa est très lié à l'histoire de notre discipline. Le site n'étant pas monumental, le site étant un tas de terre fondue, toute l'architecture était en terre, elle a fondu, il n'y a pas de vestiges spectaculaires. Et vous le savez, pendant longtemps, l'archéologie était celle des monuments, des inscriptions, il n'y a pas tout ça à Sijilmassa. Lorsque l'archéologie moderne a commencé à se développer, et l'archéologie médiévale en particulier, dans les années 70-80, très tôt, les autorités du patrimoine du Maroc ont ciblé Sijilmassa comme un site prioritaire. Mais il faut des compétences techniques extrêmement pointues pour fouiller ce site, qui est un site en urbain, extrêmement dense, avec plusieurs mètres de stratigraphie, avec des structures absolument partout, très densément réparties. Et c'est un site qui a été profondément remanié, profondément récupéré, recyclé, si je puis dire, pour les matériaux de construction, pour les dalles de fondation des murs. Et donc c'est un site rempli de fosses, de creusements, de trous. Tout est en négatif. Il n'y a plus rien en élévation. La plupart des vestiges sont en négatif. Et donc c'est un abord à qui fouille, à qui s'attaque à fouiller, notamment dans des test pits, dans des petits sondages étroits. C'est incompréhensible. Et il faut être particulièrement aguerri prairies, à la fouille en urbain, ce qui est rarement la formation des archéologues, à la fouille en urbain en terre et dans le sable pour pouvoir y comprendre quelque chose. Et de fait, de toutes les campagnes qui ont eu lieu à Sijin-Massa, donc depuis les années 60, de 5 ou 6 campagnes à l'heure actuelle, 5 ou 6 missions, les archéologues eux-mêmes ont généralement été déçus de leur propre travaux et ont globalement, pour les périodes les plus anciennes, pour les missions les plus anciennes, ont globalement peu publié parce qu'ils étaient dépassés en fait par leurs travaux.
La principale campagne est une campagne maroco-américaine baptisée MAPS pour projet maroco-américain de Sijin-Massa qui a duré de 1988 à 1998. Quelles ont été les découvertes réalisées dans le cadre de cette campagne de 10 ans qui ont quand même marqué l'histoire de l'archéologie à Sijin-Massa?
Ce projet était pionnier, il a été dirigé par Ron Messier, un collègue américain que j'ai eu la chance de rencontrer et qui est à l'origine de mon travail sur Sijin-Massa. Il a travaillé donc pendant 10 ans sur ce site dans des conditions très adverses, à la fois climatiques, administratives, politiques. Mais il a eu, en partant de rien, le MAPS a réussi à définir une chronologie générale du site et a enfin donner un aperçu sur la matérialité de ce site, en définissant à peu près l'emprise, en définissant quelques dynamiques de développement, la densification urbaine, le redéveloppement du site, en éclairant les premiers éléments de culture matérielle, en éclairant les premières informations sur les objets de cette culture, sur l'art également dans cette ville. Et puis, ils ont réussi à mettre ce site sur le devant de la scène. Et depuis le MAPS, beaucoup d'archéologues attendaient beaucoup de ces résultats, ont été un peu déçus, mais ce programme a suscité l'envie et a démontré qu'il était possible d'y travailler et d'y collecter des résultats significatifs.
Puisque vous parlez, Chloé Capet, de ces objets, de cette culture matérielle, y a-t-il une culture matérielle propre au site et à la cité de Sijin-Massa, à ce région du Tafilalt en particulier?
Alors, c'est toute la question d'étudier une société dont on ignore tout par ailleurs ou presque tout, et d'étudier une société au Sahara, le Sahara, dont par ailleurs également on ignore à peu près tout d'un point de vue de la culture matérielle. Et jusqu'à présent, Sijin-Massa a été considéré comme une excroissance du monde maghrébin, du Dar el-Islam, de la culture de Marrakech, de Fès. Et au fur et à mesure où les fouilles se déroulent maintenant et où la connaissance de la culture matérielle s'affirme, j'ai le sentiment qu'en fait la culture matérielle de Sijin-Massa est assez différente de ce que l'on trouve ailleurs au Maghreb et qu'il y aurait peut-être vraiment une culture matérielle saharienne à l'époque médiévale sensiblement différente. Ce qui a été une grande découverte, ce sont des éléments de décor architectural. Tout d'abord du décor architectural, les Sahariens décorent des maisons en dur et ne sont pas uniquement sous la tente. Et le MAPS a mis au jour un certain nombre de programmes de décors en plâtre, sculptés et peints, qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'on connaît par ailleurs dans le reste du Maghreb. C'est une sorte d'unicum stylistique, à la fois dans le répertoire décoratif, dans les couleurs utilisées, à la fois des décors de plâtre, des décors de bois, un plafond peint a été préservé, daté du Xe siècle. C'est sans doute un des plus anciens vestiges que l'on connaît d'art architectural au Maghreb, mais c'est assez unique. Et ce caractère assez singulier de l'art de Sijin-Massa, on le retrouve dans la production céramique également, qui est assez rustique, si je puis dire, mais qui est très reconnaissable. Une céramique blanche, une céramique non glaçurée, avec une pâte très claire, visiblement blanchie au sel, et qui, là encore, se distingue dans des formes finalement très modernes du reste de la céramique que l'on trouve au Maroc.
Une toute dernière question, puisque on arrive au terme de notre discussion. Chloé Capel, qu'est-ce qui a provoqué le déclin de Sijin-Massa, qui a été aussi importante à tout point de vue?
Le déclin de Sijin-Massa n'est pas isolé, il faut le replacer en contexte. Le 15e siècle au Maghreb est une période de crise urbaine pour beaucoup de facteurs démographiques, sanitaires, politiques. Donc Sijin-Massa est touché de plein fouet, comme de nombreuses villes du Maghreb, par un déclin général. La ville disparaît, mais l'habitat ne disparaît pas. Et quand la ville en tant qu'unité urbaine va exploser, les habitants du Tafilalt vont se relocaliser et continuer à faire vivre la ville jusqu'à la fin du commerce transsaharien.
Merci beaucoup en tout cas à vous, Chloé Capel, d'être venue brillamment nous raconter cette histoire de Sijin-Massa. Je rappelle la parution de votre somme, Sijin-Massa, porte du Sahara, aux presses universitaires de Rennes. Merci encore d'être venue nous donner une image de cette cité évaporée aux portes du Sahara. Notre émission touche à sa fin. Grand merci à toute l'équipe, Eve Etienne, Bruno Sansigny, à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Dalia, aujourd'hui à la technique. Merci également à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.